Nicker, nicker, nick, nicker, 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 nicker,
Celle qui a tourné
10 000 fois,
7 fois, sa langue dans sa bouche avant de ne pas parler, où elle en est morte, où elle connaît sa langue et sa bouche mieux que tous. Hélène Cixous. Depuis janvier 2025, un groupe de femmes et de personnes non binaires se réunit tous les 15 jours, les jeudis soirs, dans le local des machines, rue d'Alembert à Grenoble. Les machines sont une association créée, animée par Anaïs Esco, autrice et animatrice d'ateliers d'écriture. J'ai l'honneur et la grande joie d'animer ces cercles-là, appelés Le rire des méduses, en lien en famage avec le texte Le rire de la méduse d'Hélène Cixous, paru il y a 50 ans maintenant, et toujours si cuit-cru important. Vous entendrez dans la création qui suit les textes fraîchement éclos des bouches de Cassandra, Amel, Nina, Ellie, Claudine, Wipke, Michel. En coulisses, il y a Sandrine, Marie et Séverine absentes ce soir-là. Vous entendrez aussi des extraits de la marche du 25 novembre 2024 dans les rues de Grenoble pour faire cesser toute violence sexiste et sexuelle contre les femmes. Il est fait mention de violence sexiste, de silence pesant, de mort. Si votre sensibilité ne vous invite pas à nous écouter, nous ne vous en tiendrons nullement rigueur, évidemment. Bonne écoute.
C'est bon ? Est-ce que vous voulez un tour d'eau chaude ?
J'écris pour me tenir à une rampe, à un câble de sécurité. L'écriture est l'endroit de ma liberté, de mon autonomie. C'est le lieu des insolences, des plaintes, des supplications et de la création. Pour dire qu'on peut tout dire, j'écris pour écrire parce que le geste est beau. Un endroit à soi, c'est l'endroit de l'écriture. J'écris pour avoir du pouvoir, le pouvoir d'être apudique. J'écris pour laisser une mémoire. J'écris pour m'entendre.
J'écris pour ne pas tout dire. J'écris pour révéler. J'écris pour ne pas être lu. J'écris pour me donner rendez-vous. J'écris pour accepter ce qui a été et ce qui ne sera jamais. J'écris pour me souvenir en mieux. J'écris pour oublier. J'écris pour lire et je lis pour écrire.
J'écris pour me lâcher.
J'écris pour comprendre et pour apprendre. J'écris pour rire.
Mes impressions, mes ressentis, mes rages, mes bonheurs, mes malheurs. J'écris pour sortir du dedans ce qui m'encombre, ce qui me fait du mal. J'écris pour vider mon esprit, vider mes peines, éliminer ma flemme. J'écris pour penser à un avenir meilleur, un avenir de joie, un avenir d'amour. J'écris pour
trouver
l'amour
pour oublier
des mots,
le temps,
pour éliminer
son passage.
Les mots. J'écris pour éviter de ressasser les faits
quelque part
qui me font
sur le
trébucher,
solaire.
Chuter.
J'écris pour faire du rig, de l'accrochage en hauteur. J'ai une vue en surplan, le nez qui dépasse.
J'écris pour faire du mal. J'écris pour faire du bien. J'écris pour faire du mal, mais je n'ai rien fait de mal. J'écris pour faire du bien, mais je n'ai rien fait de bien. J'écris pour ajouter du mal au mal, du bien au bien, de pire en pis. J'écris pour faire une traversée du temps, et du temps, je le perds tout le temps, en comptant les espaces entre les mots. Et s'il n'y avait pas ces blancs, ces non-lettres, ce serait insupportable, ou alors ce serait du latin. Et là, le français bouche bée en aurait perdu son latin.
J'écris pour exister, même pour survivre. J'écris pour exprimer les émotions, les sentiments. J'écris pour me sortir de la gadoue dans laquelle je semble coincée. Et j'écris dans l'espoir que cela me donnerait un super pouvoir de m'en sortir. J'écris dans l'idée de les chanter, les vers, les poèmes, et que cela change mon monde, un peu comme Cendrillon aux réponses qui chantent dans la tour et qui font venir la bonne fée ou le prince charmant.
J'écris pour mettre quelque part ces pensées qui s'agglutinent comme de l'essence dans ce cerveau qui s'agite sans cesse. J'écris pour être dans l'instant présent et réaliser que là, tout de suite, maintenant, oui, là, je me sens super bien en fait, et je peux être super fière de moi en fait. J'écris pour m'autoriser à mettre en mots ces ressentis, des sensations, des émotions qui sinon seraient restées sous le tapis et auraient commencé à moisir. Et elle vient d'où cette odeur qui pue ? Bah, de ce tube trop plein de ressentiments, de doutes et de flous laissés au fond du frigo. J'écris pour mes proches parce que le pouvoir des mots est si doux, si savoureux, si puissant à offrir et à recevoir. Parce que c'est matérialiser et rendre visible, non pas de doute, je t'aime tant tu peux me croire, regarde, c'est écrit juste ici. J'écris pour cette petite fille qui n'avait pas le droit de parler dans le coin de son petit lit dans sa petite chambre et qui maintenant a toutes les pages pour se faire des mégaphones.
Un jour, il n'y aura plus besoin du 8 mars. Un jour, il n'y aura plus besoin de lutter pour les droits des femmes et des minorités de genre le 8 mars. Un jour, le 8 mars, nous ne ferons qu'écouter le bruit des oiseaux. Un jour, le 8 mars, bientôt, nous ne ferons qu'écrire, danser et jouir. Un jour, le 8 mars, bientôt. Ce sera une journée comme les autres, merveilleuse, juteuse, comme les autres, pour tout le monde, pour tous, pour toujours.
Une fille de 2 ans demande à sa mère « Comment on parle ? Il y a un moteur à l'intérieur ? » C'est ce type de question qui laisse l'adulte démuni, lui, elle, ayant peut-être oublié, négligé cet incroyable don qu'est la parole. Lui, elle surtout, qui a tourné 10 007 fois sa langue dans sa bouche avant de ne pas parler. Alors, ou elle en est morte, ou elle connaît sa langue et sa bouche mieux que nous tous. Nous tous, c'est-à-dire les témoins inconscients, ignorants de cette panne de moteur. Et si nous étions témoins, conscients, que pourrions-nous faire? Il y a sûrement une astuce. Par exemple, parler à la place de la personne en processus de cartographie sensible très poussée de son appareil buccal. Et d'ailleurs, beaucoup de témoins usent généreusement de cette solution. Nous pourrions répondre à cet enfant qu'on parle comme le fait une flûte ou un neigh, une trompette. On souffle sur nos cordes vocales à travers de notre ventre et de nos poumons. Alors, tant qu'on arrive à respirer, on arrive à parler. Haut, fort ou bas, et même en fanfare.
Mon silence ne me protégera pas. Non, leur silence ne les a pas protégés. Pendant des mois, pendant des années, pendant des décennies, elles se sont tues. Motus et bouche cousue. Non, j'ai rêvé. C'était moi. C'était une autre. C'était mon corps, mais ce n'était pas mon esprit. Est-ce possible? Comment cela a-t-il été possible? Parler? Raconter? À qui? Personne ne me croira. Il est si puissant. Il est si gentil. Il est si attentionné. On lui fait confiance, entièrement confiance. Ce n'est pas vrai, il n'est pas capable d'une chose pareille. Et puis un jour, ça déborde. Une langue commence à se délier, commence à parler. Stupéfaction, non-croyance. Puis, comme une petite musique dans l'esprit de la personne qui entend, qui écoute. Mais oui, cela a été un peu bizarre, étrange. Non, je me ravise, je n'y crois pas. Tu es sûr? Mais c'était quand? Comment? Comment a-t-il pu? Le puzzle se construit, tout petit d'abord, puis il grossit, il s'agrandit. Il devient immense, ce puzzle. Il n'y a pas d'espace assez grand pour le contenir. Il sort des normes, il sort de ses gonds. Scandale in familiis. Un scandale, puis deux, puis trois, puis... Mon cahier ne contient pas suffisamment de pages pour raconter. Celle qui ose pour les autres, celle qui ose pour son frère, qui est paralysé et ne parlera jamais. Alors oui, il y a toutes ces agressions, ces oppressions, ces mensonges, ces hypocrisies. Paraître, continuer à paraître sans disparaître. La honte, du côté de l'opprimé, mais pas du côté du coupable. D'ailleurs, le coupable... Coupable, moi? Au grand jamais. Il était consentante. Elle ne savait pas. Mais si, elle savait, elle éprouvait du plaisir. Il y a le silence de ces personnes-là. Il y a le silence des personnes qui reviennent de la guerre, des camps, complètement traumatisées, mais qui ne peuvent pas raconter. Raconter? La gorge se noue, se serre, fait mal. Les yeux se mouillent. On ne peut pas, on ne nous croira pas. Trop gros, trop énorme, il faudra attendre des décennies, voir les preuves, retourner sur les lieux. C'était donc cela? Il y a le silence des parents qui ont perdu un enfant très jeune. La naissance du second enfant, tellement de joie. Tellement d'amour, on oublie tout. On oublie le précédent, le premier. Ça n'aurait jamais dû exister. Ça n'a jamais existé. On chouchoute ce petit être venu au monde. On oublie que malgré lui, il est déjà blessé. Un jour, on lâche la chose, parce qu'il faut bien le dire. On ne sait pas s'il a compris ce qu'il a compris. Voilà, la chose est dite. Oui, mais mal dite. Mal expliquée. On s'en voudra. Mais je l'ai dit quand même. Ça restera enfoui dans une case, un tiroir du disque dur, jusqu'au jour où il y aura question. Parce que l'enfant a grandi, l'enfant, l'adulte, a besoin de savoir. Il faut raconter, reprendre à la base. que de temps perdu. Oui, mais on n'avait pas les codes. Non, vraiment, le silence ne protège pas. Il pèse très lourd, il entrave. On voudrait bien, mais on ne peut pas. Alors, parlez, racontez, prenez les formes, trouvez les mots, mais dites ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Dans tous les cas, les mots, M-A-U-X, seront moindres.
Que j'aurais aimé ne pas prendre, parce que je parlais du silence d'un homme, alors que je veux dire, je suis bien d'accord avec tout ce qu'on a dit avant, mais c'est un peu ce qui s'est imposé à moi. Donc,
nous nous sommes demandé récemment avec ma sœur si nous avions le droit de parler ou non quand nous siégions enfants à la tablée familiale chez nos grands-parents. Il faut dire que nous ne nous posions pas cette question sans raison. Nos enfants partageaient leur repas à proximité de notre tentative d'apéro. Et nous ne pouvions pas nous entendre. Un vacarme joyeux et décomplexé, mais nerveusement éprouvant. Je ne crois pas m'être étouffée une seule fois de rire sous le regard affligé de mes tantes. Or là, j'étais à deux doigts de procéder à une manœuvre de Heimlich sur ma nièce. Petite, je regardais sans un mot le tableau surplombant la table, une scène de chasse, des chiens dévorant les entrailles d'un cerf vidé aux yeux affolés. Mon oncle fanfaronnait, ma grand-mère riait, du rire comme il faut, charmant et mesuré. À sa place, mon grand-père se taisait. Alors oui, dans cette famille bourgeoise et très conventionnelle, on s'était autorisé une excentricité. L'hystérique, c'était lui, Félix, mon grand-père. L'internement, les électrochocs, la maladie mentale, c'était arrivé à un homme. Et c'était donc inexcusable. Chut, on n'en parlait pas. « Il était malade, » répondait évasivement mon père. La nuit, entassée dans la chambre des enfants, mes cousines et moi listions les bizarreries de la journée en pouffant. Il me fascinait et m'inquiétait. Et j'avais un désir désespéré d'être vu et entendu par cet homme. Il me bouleversait. À table, je me taisais peut-être, mais mon corps était tendu tout entier vers son silence et son incapacité à répondre à mes questions muettes. Lui, à qui le monde avait confisqué depuis si longtemps sa pleine humanité, dans ce silence de toute une vie.
Je rêve de silence. Il y a trop de bruit et il y a trop de voix. Des gens passent, j'entends leur voiture et leurs pas. Les talons frappent. Le bitume du trottoir résonne. La circulation émet un sifflement irrégulier, des pots d'échappement vibrent, des camions passent, la vitrine tremble. Le restaurant rouge où je retrouve une amie de longue date et que je n'ai pas vue depuis longtemps est rempli d'un brouhaha indéchiffrable et illisible. Les conversations se mêlent au tintement strident des couverts sur les assiettes. L'espace est plein d'une chose qu'on appelle musique et qui effracte mon enveloppe. Silence, de grâce, silence. Silence, j'écris. Le silence de l'écriture et du recueillement a à voir avec l'éternité et la respiration. Silence. Il y a un battement secret et imperceptible. Silence. Il y a un souffle cosmique. Silence, le cœur bat. Silence, j'écris. Silence, on écrit ou on prie. C'est peut-être la même chose. Écrire est un long silence qui écoute, un silence de toute une vie. Écrire est un long silence qui écoute, un silence de toute une vie. J'écris. Le silence du verrouillage, incorporation du terre, ne passera pas par moi. Silence, j'écris.
J'ai vu cette phrase satirique sur Instagram qui est venue toucher là où ça fait mal. Rentrer chez soi après des interactions sociales et se demander si mes prises de parole ou mes histoires personnelles permettaient de A, créer du lien, enrichir le débat, ou était juste B, l'expression d'un narcissisme et du fait que je me considère comme le nombril du monde. Culpabilité permanente, mais où est ma place ? Silence. Cette amie qui me dit que dans ce groupe, elle a l'impression qu'on ne lui laisse jamais la place dans les discussions, qu'on parle tout le temps. On dit prendre la parole, on dit donner la parole. Comment est-ce que pendant un même moment, certaines se voient autour d'une table et d'autres sur un ring ? Ding ding ! Silence. Je vois le copain d'une amie mal parler, enfin selon moi. Il est désagréable avec elle, enfin selon moi. Il mériterait vraiment d'être remis à sa place, non ? Enfin, selon moi. Dire, ne pas dire, mon silence ne me protégera pas, et ce serait protéger quoi ? Mon énergie, mes valeurs. En plus, il faudrait pas que je le froisse en lui lançant ce que je pense. Mais si un jour je me disais, si, lance.
C'était le rire des méduses, une création sonore imaginée à Grenoble, concoctée avec Cassandra, Amel, Nina, Ellie, Claudine, Vibke, Michel. En coulisses, Sandrine, Marie et Séverine, et avec la complicité généreuse d'Anaïs Esco, des machines. Je suis Lila Lakeal, ou Lila Lekhel, et je vous remercie pour votre écoute.